Amen. Merci Seigneur pour les louanges qui montent jusque devant le trône. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Que Dieu soit béni. Ça réjouit le cœur de Dieu. Je vous propose une lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 11. Marc chapitre 11 et nous lirons à partir du verset 12. Évangile de Marc, chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il se trouverait quelque chose et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. » Voilà, j'ai lu tout le texte et le contexte donc de notre méditation ce matin. Il y a des enseignements tellement profonds dans ce que nous venons de lire et nous ne pouvons pas nous arrêter sur chaque enseignement de ce texte que nous avons lu. Mais quand Jésus enseignait, la plupart du temps, il visualisait, il mettait en pratique. Et là, dans l'enseignement que Jésus va leur donner, il met en pratique les choses. Quand il parle au figuier, eh bien, ils ont vu le figuier sécher. Quand il change la destination du temple, qui avait pris une autre destination, une autre vocation que celle qui était la sienne, c'est-à-dire une maison de prière, Jésus va leur montrer, en chassant les vendeurs et les acheteurs de pigeons, etc., les changeurs de monnaie, il va les chasser et redonner au temple sa vocation initiale, une maison de prière pour toutes les nations. Et ensuite, eh bien, il va parler à cette montagne. Il dira plutôt, dites, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça ne s'est pas vérifié, ça ne s'est pas fait. Et enfin, l'enseignement sur le pardon, de pardonner pour que le Père aussi puisse nous pardonner. En réalité, tous ces thèmes, eh bien, ils sont liés entre eux, ils sont interdépendants les uns des autres. Mais ce matin, nous nous arrêterons simplement sur la puissance de la foi. La puissance de la foi. Tout ce que Dieu fait est miracle. La foi, c'est, on va un petit peu le détailler, mais la foi, c'est entrer dans la vision de Dieu, entrer dans ce monde invisible. Il y a autour de nous tout un monde invisible, entrer dans les impossibilités, Et nous allons le voir ensemble. Donc la puissance de la foi. D'ailleurs, la foule était interpellée quand ils ont dit qu'ils étaient frappés de sa doctrine. Et dans un autre passage, dans Marc au chapitre 1er, il est dit qu'ils étaient frappés par sa doctrine, car il enseignait non pas comme les scribes et les pharisiens, mais il enseignait avec autorité. Il y avait une puissance qui se dégageait, et dans le texte de Marc chapitre 1er, quand il est entré dans cette synagogue, eh bien il a délivré celui qui était possédé. Et ils ont été interpellés, ils disent « mais nous on n'a jamais vu ça, il y avait l'enseignement, mais là il enseigne avec autorité », c'est-à-dire qu'il parlait avec autorité et la chose arrivait. C'est tellement beau ça. Et le Seigneur nous enseigne pour que nous aussi nous entrions, eh bien, dans cette dimension. Nous sommes appelés, de toute façon, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, croyants, nous sommes appelés à entrer dans cette dimension de foi. Parce que tout est foi dans la vie chrétienne. C'est pas la logique, le raisonnement, et je le dis souvent, mais nous sommes tous prêts à faire marcher. Non, non. Là, c'est la foi en Dieu qui produit une efficacité, une puissance, quelque chose qui démontre que Dieu est à l'œuvre. La puissance de la foi. Alors pourquoi avons-nous besoin de la foi pour vivre une vie chrétienne authentique? D'abord parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est impossible, on peut faire tout ce qu'on veut. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il est dit, ayez foi en Dieu. Placez votre foi en Dieu. Mais parce que l'homme est incapable de vivre ce que Dieu lui demande. Incapable. Donc il y a autre chose que la volonté humaine, il y a autre chose que les efforts humains, il y a autre chose que la réflexion humaine, qu'une conviction humaine, il y a autre chose, et cette autre chose c'est la foi. C'est la foi que Dieu nous demande de placer en lui. Une foi authentique, eh bien, est un miracle. Vous savez que la foi c'est un don de Dieu. On ne la trouve pas ici-bas. C'est pas à force de persuasion que la foi va grandir. Mais la foi est un don de Dieu, c'est Dieu qui nous donne la foi. Ça vient de lui, ça vient pas d'en bas. Il nous dit qu'il nous faut la foi, mais il nous la donne, il nous la communique. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il est dit, « Or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Que Dieu nous aide ce matin à ce qu'il y ait un déclic dans notre cœur. Et que nous puissions dire, Seigneur, voilà, moi je veux sortir de cette sphère humaine et entrer dans la dimension de Dieu. Impossibilité. J'aimerais lire avec vous juste un texte qui se trouve une page avant, dans Marc au chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 24, Marc 10, 24. C'est l'épisode de Jésus avec le jeune homme riche, etc., qui est reparti tout triste. Alors, verset 24, « Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. » Il y a une impossibilité là, l'impossibilité d'être sauvé. Et ce jeune homme, il était bien sous tous égards. Quand vous lisez le texte, vous le connaissez, ceux qui lisent la parole depuis, vous connaissez le texte où ce jeune homme riche, il était bien sous tout rapport. Mais son cœur était ailleurs, son cœur n'était pas ouvert pour le Seigneur, donc la foi ne pouvait pas y pénétrer, le salut ne pouvait pas y pénétrer, la délivrance ne pouvait pas y pénétrer, parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient dans le cœur de ce jeune homme. La Bible regorge d'exemples d'impossibilité humaine, trouvant une issue par la foi en Dieu, et trouvant une issue dans l'Ancien Testament, ça regorge, mais c'est bon de nous rappeler quelques expériences de nous dire mais les hommes sont arrivés à un moment, c'était impossible, et Dieu a manifesté sa puissance en réponse à la foi qu'ils ont manifesté, la foi et l'obéissance. Par exemple, les murailles de Jéricho, quand on repense à cet épisode, Dieu leur dit, voilà le pays promis, marchez-y, avancez, voilà c'est le pays que je vous donne. Ils arrivent devant une muraille infranchissable. Il nous est dit dans le texte de Josué chapitre 6, il nous est dit que personne n'entrait ni ne sortait, c'était barricadé, fermé, des hautes murailles qui étaient là, impossible d'y rentrer. Et ils ont tout simplement fait confiance à Dieu, ils ont obéi. Ça paraissait fou ce que Dieu leur a demandé, mais ils l'ont fait. Et les murailles se sont écroulées. C'est beau de voir, devant l'impossibilité, eh bien Dieu qui se manifeste. Bien sûr, nous avons des exemples, les compagnons de Daniel dans la fournaise, leur vie était entre les mains de Dieu. Ils ont dit, nous, qu'on meure ou qu'on vive, de toute façon, on veut adorer Dieu, on ne se pliera jamais devant des idoles. Nous, on veut obéir à Dieu, on veut honorer Dieu par notre vie ou par notre mort. Je paraphrase, bien sûr. Et Dieu, eh bien, a répondu à la foi de ces garçons et ils sont sortis intacts de la fournaise. C'est un miracle. Là, c'est un miracle que Dieu a accompli, eh bien, pour ces gens-là, David devant Goliath. On connaît bien l'histoire, mais c'était démesuré, c'était impossible que un jeune garçon adolescent arrive avec une fronde, quelques pierres et un géant qui était là de plus de 2 mètres 50 qui était là et devant avec des armes avec devant David, ce jeune homme. Il a simplement dit, toi tu viens avec ton armure, tes armes, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Il a manifesté la foi dans ce Dieu puissant. Et Dieu, eh bien, a répondu à la foi de David. Josué, qui ordonne même au soleil de s'arrêter sur Gabaon. Vous avez cet épisode dans Josué chapitre 10, de 12 à 14. Il n'avait pas le temps de terminer la bataille. Vous vous rendez compte ce qu'il a demandé, mais certainement inspiré par l'Esprit de Dieu. Il dit, mais soleil, arrête-toi dans ta course, et toi lune aussi. Soleil, arrête-toi. C'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité où nous voyons quelqu'un qui ordonne au soleil de s'arrêter, d'attendre parce que la bataille n'était pas finie, jusqu'à ce qu'il remporte la victoire sur tous ses ennemis. Soleil, arrête-toi. Quelle foi! Quelle foi! Mais c'était pour l'honneur du Seigneur, pour la gloire de Dieu qu'il s'est manifesté ainsi. Il y a une puissance extraordinaire qui est attachée à la foi biblique. Les exemples choisis nous démontrent là dans ce texte 3 impossibilités, même 4 impossibilités. Sécher un figuier plein de vigueur, changer les habitudes et la liturgie, tout ce qui se passait dans le temple, le changer, c'est inamovible ça. La religion est inamovible. Ce qui se passait, c'était inamovible, c'était une impossibilité. Jésus l'a fait. Et puis, de dire à cette montagne, ôte-toi de là, et va te jeter dans la mer. Et enfin, le pardon aussi, à vue humaine, un véritable pardon, eh bien, c'est impossible. Il y a besoin de la grâce de Dieu. Mais dans toutes ces situations, autant au figuier, autant au religieux, autant à la montagne, Jésus, s'adresse avec autorité, Donc, pour donner un relief, donc je l'ai dit, le pardon véritable est très difficile dans la vie chrétienne, mais ne pas pardonner entraîne aussi un jugement, une impossibilité à Dieu de nous pardonner. On a un texte aussi dans Luc chapitre 17, je vous conduis dans Luc chapitre 17, et nous verrons aussi les paroles de Jésus. Luc chapitre 17, et à partir du verset 1er. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une meule de moulin, une pierre de moulin, et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. » Et s'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi de là et plante-toi dans la mer » et il vous obéirait. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé. » Nous voyons là que il y a là aussi, bien sûr, une impossibilité. Quand Pierre entend de pardonner 7 fois dans une journée, il faut quand même trouver déjà quelqu'un qui vienne pécher contre son frère 7 fois dans une journée. Mais Jésus lui dit, tu pardonneras encore. Et dans un autre texte, c'est 70 fois, c'est ça? Ça fait 490 fois. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et Jésus les prend à contre-pied. Il leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, la plus petite, un grain de moutarde, c'est tellement petit. Jésus lui dit, c'est suffisant. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, c'est suffisant. Alors, il y a des fois où... Là, Jésus leur parle d'une toute petite foi, c'est suffisant. Et dans un autre texte, quand cette femme syrophénicienne vient vers Jésus, elle vient vers Jésus et elle dit « Seigneur, les miettes qui tombent me suffisent, etc. » Pour sa fille était tourmentée par le démon et elle dit « Mais... » Jésus il dit n'est pas bon de donner le pain aux enfants, il est réservé pour les enfants d'Israël, tout ça. Elle dit mais même des miettes, Seigneur, mais ce que je veux c'est que tu interviennes. Et Jésus lui dira, femme, ta foi est grande. Ça semble un petit peu contradictoire. Là il parle d'une petite foi et à cette femme il lui dit mais femme, ta foi est grande. Alors pourquoi? D'un côté, il dit « une petite foi vous suffirait » et de l'autre, il dit « mais ta foi est grande ». Là, il s'adresse aux disciples et les disciples, ils sont censés connaître l'enseignement du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont à faire quand ils connaissent l'enseignement du Seigneur? Il faut obéir. Donc une petite foi suffit, voilà, il suffit d'obéir à faire ce que le Seigneur nous demande. Mais cette dame, cette femme, elle ne connaissait rien aux promesses d'Israël, elle ne connaissait rien à la parole de Dieu. Et il dit, regardez, cette femme, elle a une persévérance jusqu'à ce que j'intervienne pour sa fille. Et il lui dit, mais ta foi est grande, elle ne s'appuie même pas sur la parole de Dieu, elle ne s'appuie même pas sur les promesses parce qu'elle était étrangère. Et pourtant, elle dit, voilà, des miettes me suffisent. Si c'était miettes à toi, Seigneur, ça me suffit que je puisse voir ma fille délivrée. Et à l'instant même, sa fille a été délivrée. Vous voyez, ta foi est grande. Mais nous, avons-nous besoin d'une grande foi? Non, nous avons besoin de la foi tout court. La foi, on l'a ou on ne l'a pas. Elle n'est pas en capacité plus grande, plus petite. C'est Dieu qui nous donne la foi. Et voilà, c'est Jésus ne demande pas une grande foi, mais d'avoir la foi qui démontrera par l'obéissance eh bien que je crois. Si je prie et que je ne pardonne pas, ça démontre que je n'ai pas la foi dans ce Dieu qui me demande de pardonner. Si je prie et que je suis constamment dans l'inquiétude, ça démontre que je n'ai pas la foi. Parce que Jésus, non seulement il nous donne la foi, mais il nous donne aussi de ne pas nous inquiéter. Est-ce que quelqu'un peut me citer une promesse de Dieu de ne pas s'inquiéter? Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain suffira. Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Nous avons des quantités de promesses qui nous disent non seulement, il nous donne la foi pour croire dans la parole, elle vient de Dieu la foi, mais en plus il nous démontre et il nous donne un appui pour ne pas nous inquiéter. Alors est-ce pour ça que les inquiétudes, non mais elles doivent, on ne doit pas les accepter. On ne doit pas les accepter. D'ailleurs l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 5, je crois que c'est 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, est-ce qu'on le croit, ça? Qui c'est qui a dit non? Amen, voilà. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Non seulement le Seigneur nous donne la foi, mais il nous permet aussi de démontrer que nous avons la foi en lui faisant une pleine confiance. Si je crois que Dieu est Dieu, et qu'il est tout-puissant, et qu'il est un Père céleste, et qu'il est souverain, et qu'il est omniscient, je dois lui faire une pleine confiance. Une pleine confiance. Je me souviens, expérience, je n'ai pas l'habitude de parler d'expérience, mais je me souviens en méditant ce texte, je me souviens quand il y avait la construction de ce bâtiment, arrivé à la dernière tranche, on payait chaque tranche de travaux, on devait donner une certaine somme pour qu'il passe à la tranche suivante, et là c'était la dernière, c'était le plus élevé. On devait donner 70 000 euros. Et quand le patron, le chef de l'entreprise me dit, Monsieur Basile, il me faudrait 70 000 euros et il me les faudrait dans moins de 15 jours, quoi. Alors la réponse que je lui ai donnée, et c'était vrai, je lui ai dit, mais on les a pas. On les a pas, on avait 5 000 euros en caisse. Il m'a dit, oh là là, mais je sais que vous allez les avoir. Lui me dit ça. Bon, ceux qui étaient au conseil à l'époque se rappellent, donc je suis venu, je dis voilà, il faut donner 70 000 euros. On ne les a pas, on avait fait tous les crédits, on ne pouvait pas faire de crédit de plus. Voilà, on ne les a pas. Et à l'unanimité, le conseil dit, mais on fait confiance au Seigneur puisqu'il a... Eh bien, on a prié, ça a été terminé. 3 jours après, je reçois un coup de fil d'un chrétien du sud-ouest. Il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai appris que vous étiez en train de construire, est-ce que vous avez besoin d'argent? Je n'osais pas trop, parce que j'ai dit, oui, bon, c'est bon. Et il a raccroché, il a envoyé dans la foulée 30 000 euros. Waouh, c'était bon déjà. Quelques jours après, lettre de la mairie, vous voyez, des fois, les hommes, ils tiennent leurs promesses. Un jour, j'avais rencontré l'ancien maire, hein, et je lui avais dit, il faut que vous nous aidiez pour... Il m'a dit, trouvez un terrain et je vous aiderai. Des années après, il nous envoie un courrier avec la somme de 30 000 euros de la mairie. Ça fait 30 et 30, 60, 5 000 euros en caisse, 65, et dans les quelques jours, eh bien, avec les offrandes, c'est rentré 70 000 euros. J'ai pu lui donner même avant les 15 jours. Vous voyez, c'était quand même une impossibilité, parce que quand on le raconte, on dit voilà, Dieu a pourvu, mais quand on y est dans le mouvement, c'est pas pareil. Mais Dieu a pourvu. Et ça, je me dis merci Seigneur, parce que tu es grand et tu es glorieux. Donc nous avons vu la puissance de la foi, mais l'objet de la foi, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, en personne d'autre, sur la personne de Dieu. Ce n'est pas une divinité étrangère, il n'est pas éloigné de nous, et ce n'est pas le hasard, on dit, bon, je prie, on verra bien ce qui se passera, ce n'est pas une bouteille lancée à la mer. Nous nous adressons à notre Père Céleste, nous nous adressons au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui a créé tout l'univers, qui tient l'univers dans ses mains, nous nous adressons à lui. On ne le réalise pas toujours et pas souvent, mais il faut qu'on le réalise avec la parole de Dieu. On dit, je suis en train de prier le Père Céleste, je suis en train de prier celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ayez foi en Dieu. La foi biblique est solide, car elle repose sur Dieu lui-même. Et c'est l'apôtre Paul qui le dira, 1 Corinthiens 2,4, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Combien c'est beau. On se repose sur Dieu, on fait confiance à Dieu, on sait qu'il a les ressources. On sait qu'il est tout-puissant, on sait que ce qu'il promet, il est capable aussi de l'accomplir. Amen. C'est une chose que de faire une promesse, si nous la faisons, mais c'est une autre de pouvoir la tenir. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons avoir une confiance absolue en Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Éphésiens 3:20, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. » Ça, c'est notre Dieu. C'est beau, hein ? Se dit, Seigneur, voilà, je veux avoir la foi, Seigneur. C'est pas parce qu'on a une croyance qu'on a la foi, hein. La foi, c'est pas de croire en Dieu, mais c'est de croire Dieu. C'est pas pareil, c'est complètement différent. Il y a beaucoup qui croient en Dieu. Mais de croire ce que Dieu nous dit dans sa parole concernant ce qu'il est, mais concernant ce que nous sommes, et concernant aussi ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire encore pour nous. C'est autre chose que de, j'allais dire, de prendre Dieu au mot. Si l'expression n'est pas bon. Mais de dire, sur ta parole, Seigneur, je m'appuie. Et je veux croire. Nous devons toujours nous rappeler, et ça c'est important aussi de le souligner, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes inscrits dans un plan éternel, dans un but. Dieu fait toutes choses dans un but. Et nous sommes inscrits dans ce plan éternel. Mon exaucement à la prière, il est compris dans ce plan éternel. C'est compris dedans. C'est pas en dehors, c'est pas je suis en dehors du plan souverain de Dieu, il m'a exaucé comme ça au hasard. Non, mais Dieu fait toutes choses et fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu et nous fait entrer dans un plan, dans son plan. Il le fait. Pourquoi ? Parce qu'il poursuit un plan. Alors moi je connais pas dans les détails le plan de Dieu qu'il a pour nous, pour l'Église, je connais pas, mais Dieu a un plan, il y a un but. Et mon exaucement de prière, quand Dieu manifeste sa puissance, c'est inscrit dans le plan éternel de Dieu. Mais c'est grandiose. Nous sommes inscrits dans un plan éternel de Dieu. C'est pas, je vis pas détaché de cela, je vis pas, je dis Seigneur, j'ai besoin, exauce-moi. Mais même l'exaucement va faire grandir certainement ma foi, va donner un témoignage à ceux qui sont autour de moi, peut-être va aider quelqu'un à s'approcher de Dieu. Un exaucement, quelque chose, va dire, mais attends, mais comment ça s'est passé, etc. Je veux venir voir. Et voilà. Il faut que nous ayons la foi, frères et sœurs. C'est indispensable. D'ailleurs, Jésus le met dans Luc au chapitre 18. Il dit « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre ?» Ah, on peut trouver beaucoup de choses, même des prières, des lectures, de la religion, on peut trouver des activités, des œuvres, on peut trouver beaucoup de choses. Mais Jésus dit « Trouverai-je l'essentiel ? Trouverai-je la foi ?» Jésus ne s'attend pas à trouver la foi chez les païens, mais il s'attend à les trouver chez les chrétiens, à trouver cette foi chez les chrétiens. Trouverai-je la foi ? Puissions-nous lui dire, oui Seigneur, je désire, je veux non seulement la recevoir, mais l'entretenir, je veux vivre par la foi, je veux marcher par la foi, Seigneur, donne-moi vraiment de vivre ces choses. Il poursuit le but, Seigneur. Notre foi est basée sur les promesses de la parole de Dieu. Et enfin, les opportunités de la foi biblique. Croire l'impossible. Tout ce que Dieu fait, je l'ai souligné tout à l'heure, tout ce que Dieu fait est un miracle. Tout ce que Dieu fait, sans la main de l'homme, est un miracle. Dieu peut conduire la main d'un homme, d'un chirurgien. C'est pas un miracle, mais Dieu a quand même conduit. Mais le miracle, c'est quand il n'y a pas la main de l'homme. Et que Dieu intervient. C'est beau. Sans la main de l'homme, Dieu intervient. Nous sommes appelés à cela, à voir ces choses. J'y reviendrai en conclusion. Croire l'impossible. Les Juifs utilisaient un proverbe qui enseignait cette vérité spirituelle. Déplacer une montagne, c'était pour eux faire référence à quelque chose d'impossible, ou un travail tellement grand, tellement long, tellement fastidieux. C'était chez les Juifs ce proverbe, il y a une montagne devant, il faut la déplacer, quelque chose d'impossible. Et Jésus, c'est dans le sens littéral qu'il le dit. C'est... Après, bien sûr, on peut transposer en disant que c'est une montagne de difficultés, etc. Mais Jésus le dit au sens littéral. Cette montagne, voilà, elle doit se déplacer. Ah, Seigneur, c'est impossible. Eh oui, on est devant une impossibilité. Heureusement qu'on n'a pas le pouvoir de déplacer les montagnes. Sinon, je ne sais pas ce que ça serait. Il y a tellement de situations dans la vie qui semblent désespérées, tellement de situations où on ne peut rien faire, désespérées, des membres de nos familles qui ne sont pas encore sauvés, qui sont perdus, des problèmes insolubles, problèmes de famille, problèmes insolubles, problèmes d'église, insolubles. Il y a tellement de choses qui peuvent être là, comme insolubles. Mais le Seigneur nous dit de parler aussi avec autorité sur ces choses impossibles. Ça dépasse un petit peu notre dimension de vie chrétienne, entre guillemets, routinière. Hein. De parler avec autorité. Ah, mais ça, c'est le Seigneur qui a parlé avec autorité. Mais il dit, dites à cette montagne, dites, vous. La foi en Dieu, dans ses promesses, c'est de croire que Dieu, dans des situations impossibles de la vie, est capable d'intervenir pour glorifier son nom. Croire que Dieu a un plan, croire qu'il veut sauver ceux qui sont encore perdus dans nos familles, croire que notre avenir est entre ses mains, croire qu'il pourvoira, croire qu'il ne m'abandonnera jamais, croire que son plan est le meilleur, croire que Dieu a le regard sur nos vies, croire qu'il est prêt d'intervenir à tout moment. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Non pas la foi dans l'homme, en nous-mêmes, mais la foi en Dieu. Ce qui veut se dresser devant moi comme une montagne, eh bien, je dirais que une des plus grosses montagnes, c'est l'incrédulité. Elle se dresse devant nous et elle annule tout. L'incrédulité annule tout. Elle nous paralyse. Elle nous donne de plus avancer. L'incrédulité, c'est terrible, l'incrédulité, qui succède au doute. Le doute, c'est le premier pas qui nous amène à l'incrédulité. Dans le jardin d'Éden, le diable a mis le doute dans le cœur de Ève. Il a mis le « Dieu a-t-il réellement dit ?» Ah, le doute est venu. Et après le doute, l'incrédulité. Dieu avait fait des promesses. Il leur avait dit « Voilà, vous êtes dans le jardin, vous mangez de tout, mais pas de ça. Voilà, vous êtes là, je prends soin de vous, je vous visite chaque soir. » C'était beau. Dieu venait s'entretenir avec eux sur le soir. Il pourvoyait. Et à un moment donné, l'ennemi est venu à semer le doute, et le doute a amené à l'incrédulité, ça veut dire qu'ils sont passés à l'action, ils n'ont pas cru la promesse de Dieu, et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Vous voyez, le doute, quand il est là, il faut le chasser, comme des oiseaux de proie. Le doute qui nous vient là et qui nous rend instables, et l'incrédulité nous paralyse complètement. Que le Seigneur nous aide à dire à cette montagne d'incrédulité, « Je te refuse ». Au nom de Jésus, je refuse ça. Moi, je crois ce que Dieu a dit, et non pas ce que je pense, non pas ce que quelqu'un d'autre m'a dit sur moi ou sur... Non, je crois ce que tu dis, Seigneur. Je m'appuie sur les promesses de ta parole, et je te fais confiance. C'est cela, la foi. Bien sûr, des fois, on est là, on tremble un petit peu, mais, Seigneur, je te fais confiance, viens mon secours, Seigneur. Moi, mes jambes, elles chancellent, mais le rocher sur lequel je m'appuie, il est ferme, il est solide. Les promesses de Dieu, elles sont solides, elles tiennent, et nous pouvons nous y appuyer. Dans Zacharie, au chapitre 4, verset 7, il est dit, vous savez, nous, on connaît bien le verset 6. Alors, qu'est-ce que c'est, Zacharie, chapitre 4, verset 6 ? Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et ensuite, il est dit, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il parle à la montagne. Qui es-tu, grande montagne, pour te dresser devant moi? Qui es-tu, grande montagne, pour me paralyser? Qui es-tu, grande montagne, pour rendre ma vie sèche, ma vie malheureuse? Qui es-tu, grande montagne, d'incrédulité? Qui es-tu? J'ai les promesses de la parole de Dieu. Nous avons les plus grandes et les plus précieuses promesses. Nous pouvons nous y appuyer dessus, dire « tout me démontre le contraire, tout démontre que c'est le chaos, c'est la misère, c'est l'avenir incertain, tout !» Mais c'est mon incrédulité qui me montre ça. Dieu a un plan pour toi, il a un plan pour moi. Dieu a un plan et c'est un plan éternel. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 1er et Colossiens chapitre 1er, nous voyons que nous sommes inscrits de toute éternité. Dieu nous a aimés de toute éternité, il nous a choisis de toute éternité pour entrer dans son plan éternel de gloire. Et nous sommes là, ce n'est pas un accident si nous sommes là, c'est inscrit dans le plan éternel de Dieu. Dieu est souverain. Amen, et nous pouvons lui faire confiance. Je ne veux pas trop en dire pour qu'on retienne déjà cela. La foi biblique est une arme puissante. Les montagnes cèdent à sa puissance. L'incrédulité, le péché, les ténèbres doivent s'incliner devant l'autorité de la parole de Dieu. Nous avons une promesse, nous sommes plus forts que le diable, que les démons, que l'enfer, avec une promesse de Dieu. Une seule promesse, nous sommes plus forts. Jésus, avec trois paroles, a mis échec et mat l'ennemi. Dans Matthieu 4 et dans Luc 4, il a fait reculer avec juste prononçant la parole de Dieu. Il nous faut, frères et sœurs, prendre autorité sur certaines choses dans notre vie. Sinon, on se laisse écraser, on se laisse ligoter, on est là à parler les soucis, les fardeaux, l'incrédulité, les paroles des... On se laisse mais anéantir. Refusons cela. Et disons à cette montagne, mais qui es-tu, toi ? Dieu a dit autre chose, pourquoi toi tu es devant moi? Pars de là, jette-toi dans la mer. Amen. Et vous savez, quand frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre par la foi. Les premiers chrétiens vivaient par la foi. Ils voyaient le bras de Dieu se mouvoir, intervenir. La direction de l'Esprit était là. Et Jésus, vous savez, il a été glorifié. Nous sommes appelés. En tant qu'Église, nous sommes appelés à vivre par la foi. Cette maison doit être une maison de prière. On doit célébrer notre Seigneur Jésus. Par nos vies, Jésus doit être glorifié. Et nous devons refuser tout ce qui ternit la gloire de Dieu dans notre vie. Toute incrédulité, toute chose qui freine nos vies. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Et la foi sur quoi ? Sur Dieu, sur ses promesses, sur sa parole. Nous pouvons déclarer, oui Seigneur, tu as dit dans ta parole. Et ça c'est dans le livre de Néhémie, mais il faudra que je m'arrête. Dans le livre de Néhémie, il est dit, Seigneur, tu as dit à ton serviteur Moïse, tu as dit. Et il rappelle la promesse. Et en quelque sorte Néhémie, il dit, tu l'as dit à Moïse, mais cette promesse, je la fais mienne. Et nous voyons comment Dieu a conduit Néhémie dans les travaux, etc. Que Dieu nous aide. Le discours de Jésus, il est déconcertant pour l'homme naturel. Il est déconcertant. Quand on lit ce que le Seigneur demande, mais c'est fou, c'est fou. Et pourtant, c'est surnaturel, c'est divin, c'est puissant. Et ça glorifie le Seigneur. Si ça vient de nous quelque chose, ça vient de l'homme, Jésus ne sera pas glorifié. Mais si on dit, voilà, c'est Dieu qui est intervenu, il sera glorifié. Que le Seigneur nous aide, on va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour la parole, Seigneur, dite simplement, mais Seigneur, nous voulons faire enlever toutes ces montagnes, Seigneur, de devant nous. Nous voulons que rien ne se dresse. Seigneur, dans le plan que tu nous as tracé, dans le chemin, qu'aucune montagne ne se dresse devant nous pour nous arrêter, Seigneur, mais nous voulons manifester la foi biblique, la foi sur la parole, et la démonstration, c'est l'obéissance. Ah Seigneur, oui, nous voulons voir ces choses, Seigneur, se réaliser au milieu de nous par la puissance de ton nom, la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, prends cette place au milieu de nous, cette autorité. Nous, c'est juste une autorité déléguée, mais toi, tu es celui qui a une pleine autorité, Seigneur. Merci de parler par ta parole, merci de nous donner de croire ce que tu dis dans ta parole et de ne pas douter. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen.